Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Fais pas ci, fais pas ça, non, je t'ai dit non, mon Dieu, vivement qu'il aille à l'école celui-là. Quels sont les parents qui ne se sont pas surpris à quelque impatience, pensée ou geste qu'ils ont parfois regretté? Aujourd'hui, un peu comme un Graal, un type d'éducation est à la mode, l'éducation dite positive. Une manière nouvelle, au dire de certains, d'éduquer ses enfants pleine de bienveillance. Quels sont les principes de cette éducation positive? Comment ne pas la prendre pour le coup comme une réprimande faite cette fois à l'adresse des parents? Une émission Vivante Église, ce matin, coup de zoom sur l'éducation positive, avec autour du plateau, il y a du monde, Isabelle Fioza, qui est psychothérapeute et auteur de « On ne se comprend plus » paru aux éditions La Thèse, bonjour. Voilà, Isabelle Fioza qui n'est pas au téléphone. Isabelle Fioza, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous et voilà. À toutes, je suis ravie d'être avec vous. Il y a plein de soleil autour de moi, mais je suis un peu loin de vous.
Voilà, on vous retrouve en tout cas. Christelle Ansart, vous êtes formatrice auprès de professionnels de la petite enfance et animatrice d'ateliers de parents et coach en parentalité. Bonjour.
Bonjour.
Et Sandrine Astegno, vous êtes maman de deux enfants, infirmière en pédiatrie. Bonjour.
Bonjour.
Et Albert Roser Thomas, vous êtes père de trois enfants et vous avez aussi découvert l'éducation positive. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien tous près des micros et de vos combinés. On va commencer avec vous cette découverte de l'éducation positive. On va dire l'éducation positive pour les nuls. Comment vous nous la présenteriez, Isabelle Fioza, puisque j'ai cru comprendre que vous étiez une des grandes vulgarisatrices de cette réalité pour la France. Voilà, en quelques mots ou quelques phrases, comment vous introduiriez cette éducation positive ?
Alors, le terme de parentalité positive, d'éducation positive, a été choisi par le Conseil de l'Europe en 2006 dans une recommandation au gouvernement visant à organiser les politiques de soutien à la parentalité. Donc, ce terme de parentalité positive ou d'éducation positive, c'est surtout une grande orientation contre la violence. Cette recommandation a fait suite à toutes sortes de rapports qui ont montré que malgré l'évolution de la société, les violences faites aux enfants étaient encore vraiment beaucoup trop répandues. Donc ce terme, ça n'est pas une éducation spécifique, c'est une direction et c'est vraiment stopper la violence. Une des choses vraiment essentielles dans la parentalité positive, c'est que c'est une parentalité qui respecte les besoins des enfants et des parents.
Voilà, donc ça c'est pour la présentation. Parlez bien près de votre combiné, parce qu'on a l'impression que vous êtes assez loin. Est-ce que on peut commencer par faire un petit peu d'histoire? J'ai cru comprendre. Alors vous me direz, je n'ai pas eu autant de temps que vous pour connaître toute la genèse de cette éducation positive, mais que ça venait comme beaucoup de choses d'outre-Atlantique, de ce qu'on appelle aussi la discipline positive. J'ai vu deux noms qui peuvent être un peu comme les noms des fondateurs ou inspirateurs. Directement ou indirectement, Lynn Lott et Jane Nelson. Est-ce que vous pouvez nous aider à sourcer un petit peu cette éducation positive?
Alors, à vrai dire, c'est un mouvement, comme je vous le disais, un ras-le-bol de la violence et toutes sortes d'initiatives sont nées un peu partout et dans le monde entier, très peu en France. Je suis une des seules, au début maintenant, il y a quelques personnes aussi autour de moi, mais j'ai publié il y a plus de 20 ans « Au cœur des émotions de l'enfant » qui s'inscrit complètement dans cette dynamique d'éducation positive, même si on n'en avait pas encore le mot. Donc, Jane Denzel, oui, elle a fait tout ce travail aux États-Unis aussi, mais on ne peut pas véritablement dire qu'il y ait une genèse. C'est un courant, comme je vous le disais, avec de multiples initiatives et chacune ayant un peu son orientation.
Alors, on vous entend difficilement. Alors, je vous propose, on va vous rappeler sur votre téléphone portable et puis on va demander à Christelle Ansart de prendre un petit peu la relève rapidement. Il y a, pour l'éducation positive, une réalité qui plaide en sa faveur, c'est l'apport des neurosciences. Vous pouvez peut-être rappeler en quelques mots ce que sont les neurosciences, Christelle Ansart, parce que tout le monde n'en est pas familier. Qu'est-ce que les neurosciences, on va dire, disent ou révèlent? Est-ce que vous pouvez prendre quelques exemples qui plaident en faveur de cette éducation positive?
Alors, les neurosciences, c'est l'étude de ce qui va se passer dans notre corps et en fonction de ce qu'on ira d'un environnement, par exemple. Et on va pouvoir étudier le stress, ce qu'il se passe dans le cerveau quand on est et dans son corps quand on est en stress, par exemple. Ce qui a permis, depuis plusieurs années, de pouvoir comprendre ce que l'on faisait et mettre un parallèle avec ce qu'il se passait. Et on a pu voir que l'approche empathique était bénéfique pour notre cerveau.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre un exemple ? J'ai vu par exemple l'histoire de l'ocytocine. L'ocytocine qui permet de faire preuve d'empathie, de faire face au stress, de donner confiance en soi, d'aimer, de coopérer, elle-même cette sécrétion d'ocytocine qui entraînerait donc l'activation de la sécrétion d'autres molécules. Est-ce que vous pouvez par exemple l'illustrer par cet exemple ?
Tout simplement, quand vous faites un câlin avec l'intention de faire un câlin et de donner de l'amour à votre enfant, eh bien pendant 20 secondes, si vous restez 20 secondes à envelopper votre enfant d'amour, il se passe dans le cerveau, l'ocytocine monte et elle remplit le corps de l'enfant et elle vous remplit aussi, ce qui permet effectivement de faire redescendre la pression.
Voilà, donc ocytocine qui entraîne donc l'activation carrément de l'endorphine, la molécule du bien-être, de la sérotonine, stabilisateur d'humeur, et dopamine, la molécule qui donne plaisir à vivre, qui fait dire donc que dans ces cas-là, quand on a beaucoup d'ocytocine, on n'a pas besoin d'antidépresseurs. Est-ce qu'on a retrouvé Isabelle Fioza ? Voilà, on vous a retrouvé en espérant que la communication sera meilleure. Je posais la question à Christelle Ansart de l'apport des neurosciences, donc elle a rapidement répondu. Qu'est-ce que vous ajouteriez sur ce sujet ? Qu'est-ce que les neurosciences, est-ce que les neurosciences plaident en faveur de l'éducation positive et si oui, pourquoi ?
Oui, elles plaident complètement pour l'éducation positive. En fait, c'est même la définition, parce que les neurosciences nous permettent de savoir ce qui se passe dans la réalité. Avant, on avait des idées sur l'éducation et du coup, on pouvait se disputer tous autour, chacun avait sa propre opinion. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'opinion. Et nous n'avons plus à avoir d'opinion, il n'y a plus besoin d'opinion parce que nous avons la science qui n'existait pas il y a ne serait-ce que 10-15 ans, on ne savait pas autant de choses. Aujourd'hui, vous avez parlé des neuromédiateurs, on sait mieux ce qui se passe dans le cerveau, on a aussi l'IRM fonctionnel qui nous permet de voir en direct ce qui se déroule dans le cerveau, et donc ça nous permet de pouvoir nous adapter aux besoins des enfants. Or, la définition de la parentalité positive, c'est une parentalité qui s'adapte aux besoins des enfants. Donc, les neurosciences nous aident à faire de la parentalité positive.
Est-ce que vous pouvez prendre des exemples, dans ces cas-là, de quelques découvertes des neurosciences qui plaident pour, qui aident justement les parents à mettre en application cela ?
Deux petits exemples. Par exemple, on sait maintenant que vers 2 ans, le cerveau préfrontal, c'est-à-dire cette zone qui prend les décisions et qui est capable d'inhiber les comportements, n'est pas encore bien connecté avec la zone émotionnelle et la zone de impulsion vers l'action. Donc, quand un enfant de 2 ans même promet à ses parents « je vais pas faire ça, je touche pas aux choses, aux objets sur le bureau du docteur, etc. », il est capable de répéter ce qu'on lui a dit, il a bien compris, mais sur le moment, il sera totalement incapable d'inhiber son impulsion, c'est-à-dire de s'empêcher de faire ce qu'il a l'impulsion de faire, envie de faire. Il voit quelque chose, il va mettre sa main, il va forcément y aller. Et donc, ça n'est pas que l'enfant fait un caprice, est mauvais enfant, n'écoute rien, etc. C'est simplement, et ça les neurosciences nous le disent, elles nous le montrent, il n'y a pas encore le câblage nécessaire.
Ça, c'est le premier exemple. C'est le premier exemple, vous disiez que vous en aviez un deuxième.
Et donc, par exemple, l'adolescence. On sait aujourd'hui que le cerveau de l'adolescent est remanié à plus de 80%. Et donc, on comprend mieux maintenant pourquoi un adolescent a tellement de mal à se concentrer sur quelque chose, à moins qu'il ne l'ait choisi. On sait pourquoi il a tellement cette impulsion à prendre des risques. parce qu'on voit ce qui se passe dans son noyau accumbens, le circuit de la récompense, on voit ce qui se passe dans son cerveau préfrontal qui aussi est en réaménagement et qui ne lui permet donc pas de pouvoir bien réguler ses propres comportements. Donc ça nous permet de comprendre, ah, voilà un nouvel éclairage pour saisir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant et qui motive ses comportements.
Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on essaie d'organiser, là c'est un peu une partie introductive, on essaiera de voir quelques pratiques clés, ou enfin quels sont les points cardinaux, on va dire, de cette éducation positive, avec vous et puis avec Christelle Ansart, ce qui n'interdit pas aux autres d'intervenir. Je voulais qu'on fasse tout de suite écho, en introduction, aux critiques qu'on peut lire, que j'ai sériées en trois types de critiques. La première, c'est qu'elle pourrait faire culpabiliser les parents. Je citais ce matin dans le teasing de l'émission ce sketch de Florence Foresti qui se moque des mamans calmes. Je la cite, les mamans calmes, celles qui ne crient pas, qui ne courent pas devant l'école, elles ne crient jamais, elles ne courent pas. Voilà, et Florence Foresti, donc humoriste bien connue en France et ailleurs, qui est un peu exaspérée, non pas par l'éducation positive, mais peut-être par les mamans parfaites ou les injonctions faites aux parents d'être parfaits. Qu'est-ce que vous diriez sur ce volet de la culpabilité ?
Que justement, la parentalité positive, elle permet de déculpabiliser les parents. C'est ce qu'on me dit très très fréquemment, c'est l'objectif déjà de mes livres, hein. C'est vraiment déculpabiliser. Et vraiment, le fait qu'on ne donne plus de « il faut, on doit » aux parents, parce que ça c'est l'éducation à l'ancienne, ça n'est pas du tout l'éducation positive. Vous devez être un parent parfait, ça c'est l'éducation à l'ancienne. L'éducation positive, c'est respecter les besoins des enfants et des parents, et surtout fournir des outils concrets aux parents. Et du coup, ça déculpabilise complètement les parents parce que ça leur permet de comprendre leurs propres réactions et d'avoir des outils pour faire différemment. Et donc, Florence Foresti, oui, c'est très drôle, je connais bien ce sketch, hein, et elle dénonce à très juste titre ses parents qui veulent absolument être parfaits. Il ne s'agit pas du tout de chercher à être parfait, mais vraiment de satisfaire aux besoins de chacun et de changer notre vie, parce que malheureusement, aujourd'hui, eh bien, trop souvent, l'éducation, c'est une bagarre entre les parents et les enfants.
Deuxième critique que j'ai lue, le procès qui peut vous être fait, non pas à vous, mais à cette éducation positive, procès en laxisme, ça serait le règne de l'enfant roi, à force de trop partir des besoins ou des émotions des enfants, les parents seraient satellisés et les petits prendraient une place qui n'est pas celle qu'ils doivent avoir.
Donc d'une part, cette critique est faite par des gens qui ne connaissent pas la parentalité positive, puisque justement cette parentalité positive prône le respect du parent et nourrir le parent de toutes sortes d'outils de manière à ce qu'il puisse faire autrement. Et d'autre part, ça fournit aux parents des outils efficaces. Et donc les enfants coopèrent, les enfants participent à la vie familiale, les enfants n'obéissent pas dans le sens obéir bêtement, mais ils deviennent davantage responsables. Donc clairement, cette accusation de laxisme, elle a été, et c'est vrai que on voit des enfants qui ont du mal à se concentrer, on voit des enfants qui font des crises majeures de nos jours, et donc certains, peu scientifiques, ont avancé l'idée que ce pouvait être parce qu'il y aurait une perte d'autorité. Le retour à une autorité, ce retour à la sécurité dès qu'on est en insécurité, c'est un peu un processus psychologique naturel, mais scientifiquement, on sait que c'est exactement le contraire en fait. Plus on est autoritaire, moins les enfants ont de capacité à réguler leur frustration. Plus on est autoritaire, moins les enfants ont de capacité à se responsabiliser et ils vont risquer de transgresser bien plus. Donc la parentalité positive, elle n'est ni laxiste ni elle permet aux enfants de développer un esprit d'empathie envers autrui, de conscience de l'impact de leur comportement et de responsabilisation. Avant, on ne croyait même pas que c'était possible, puisqu'on avait l'idée qu'un enfant, à la base, c'était un petit pervers, c'était quelqu'un qui allait déstabiliser le parent. On avait cette vision de l'enfant comme de quelqu'un qui allait forcément chercher à déstabiliser son parent et à faire le contraire de ce qu'on lui demande. Donc du coup, dans cette vision-là, c'est clair, il fallait mater l'enfant. Aujourd'hui, on n'en est plus là et la science nous montre que non. Un petit enfant a une empathie naturelle. Un petit enfant a envie d'aider et de participer à la vie. Et les parents représentent pour l'enfant une autorité naturelle. Et il n'a qu'envie de participer, de faire ce qu'on lui demande, à condition que la manière dont on lui demande les choses ne soit pas en lui donnant un ordre, etc., qui va bloquer son cerveau. Donc le souci, c'est qu'avant, on était obligé de recourir à l'autorité parce qu'on ne comprenait pas comment fonctionnait le cerveau. Et du coup, on s'y prenait un peu mal. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, on peut du coup respecter les besoins de l'enfant et du coup, lui, il participe davantage. Ça rend les enfants plus responsables.
Dernière critique que j'ai lue, c'est pas du tout pour vous faire un procès, mais on va dire que c'est pour permettre plus de fluidité pour la suite de l'émission. D'aucuns considéreraient que, à force d'avoir des relations pleines d'écoute, de bienveillance, qui favorisent l'harmonie familiale, ces enfants ne seraient pas armés pour faire face à la réalité du monde, des relations à l'école et plus tard ailleurs, qui sont souvent régie par d'autres comportements que la bienveillance ou que l'écoute.
Ça part d'un principe qui est qu'il faudrait s'entraîner à quelque chose pour pouvoir réussir, sauf qu'on ne peut vraiment s'entraîner que quand on en a déjà les capacités. Donc l'idée de la parentalité positive, c'est justement fournir les capacités, développer le cerveau. L'éducation autoritaire, on le sait aujourd'hui, altère certaines zones du cerveau et si on est trop autoritaire, altère vraiment durablement le cerveau.
C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un petit peu plus précise?
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs zones dans le cerveau et notamment, pour faire simple, parce qu'il y a différentes études, mais le fait de faire peur et honte à un enfant va hyperstimuler son amygdale et va donc le rendre plus réactif et avoir plus d'impulsivité. D'autre part, lorsqu'on n'écoute pas les émotions d'un enfant, lorsqu'on n'accompagne pas, il n'apprend pas à réguler, et il ne tisse pas les réseaux de neurones entre le cerveau préfrontal et son cerveau émotionnel, et donc il va avoir une impulsivité beaucoup plus marquée et une plus grande difficulté à maîtriser ses comportements. C'est pour ça que nous avons une société si violente et nous savons que cette violence, elle se transmet depuis nos parents, depuis des générations et des générations. Et vraiment, nous avons besoin d'arrêter ça. Il n'y a pas très longtemps, les hommes étaient invités à être violents envers leurs femmes et c'était naturel qu'un homme dirige la famille, soit autoritaire et qu'il frappe sa femme. On n'a jamais vu...
Attendez juste, excusez-moi, vous parlez de quelle époque? Parce que là, pour le coup, j'ai du mal à vous suivre. À quelle époque était-il normal de cogner sa femme?
C'est pas si vieux que ça, que les hommes aient le droit de cogner leur femme. Et là encore, je dirais, c'est même... il y avait encore un certain nombre de passe-droits, mais donc on sait que le fait que l'homme ait de l'autorité sur sa femme n'a jamais permis aux femmes de s'épanouir et de se sentir responsables. Aujourd'hui, qu'on tend vers davantage d'égalité et que les hommes n'ont plus le droit de frapper leurs femmes, les femmes sont nettement plus responsables et apparentes sur... elles sont beaucoup plus armées pour faire face à la société. Donc, ce procès qui dirait que si on n'enseigne pas aux enfants à se battre, à recevoir des coups quand ils sont petits, ils ne sauront pas en recevoir plus tard. Non. Peut-être que justement, ils n'accepteront pas qu'on leur donne des coups plus tard. Ils seront plus armés pour faire face à la violence de manière non violente. C'est une nouvelle société.
Je vous propose qu'on fasse une première pause et puis après on va essayer de détailler ces pratiques. Je rappelle le titre de l'un de vos ouvrages, On ne se comprend plus, paru aux éditions Lattès.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Coup de zoom sur l'éducation positive, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église. Ce matin, évidemment, son thème, avec autour du plateau Isabelle Fioza, psychothérapeute et auteure, entre autres, de « On ne se comprend plus » paru aux éditions Lattès. Christelle Ansart, qui est formatrice auprès de professionnels de la petite enfance, animatrice d'ateliers de parents et coach en parentalité, et Sandrine Astegno et Albert Roser Thomas, tous les deux parents d'enfants, et donc qui ont suivi des stages de formation à cette parentalité positive. Comme annoncé, je voulais dans cette deuxième partie qu'on donne un peu les points cardinaux qu'on rentre un petit peu dans le concret, dans la pratique, les points cardinaux de cette éducation positive. On l'a compris dans vos propos introductifs, Isabelle Fioza, l'importance d'être à l'écoute et de savoir valider ses émotions, tant celles des enfants que des parents. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot d'introduction sur ce sujet, et puis après on laissera Christelle Ansart nous expliquer comment elle s'y prend dans ses ateliers et dans l'accompagnement des parents?
Tout à fait, oui, la maîtrise des émotions est vraiment essentielle pour les humains, et pour cela, eh bien, nous avons à muscler, entre guillemets, les réseaux de neurones qui permettent d'arriver à réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, la première chose, quand un enfant vit de l'émotion, c'est de rester calme, affectueux, pour permettre d'associer dans son cerveau l'émotion et les sentiments positifs, hein, puis de valider, comme vous le dites très justement, son émotion, c'est-à-dire en mettre des mots. Et au lieu de lui dire « tu n'as pas le droit de sentir ça, tu peux... hein, » c'est vraiment tu es en colère et tu as raison d'être en colère parce que tu as vécu telle et telle frustration. C'est-à-dire qu'on va nourrir le cerveau de l'enfant d'informations et aussi de compétences.
Christelle Ansart, qu'est-ce que vous dites de plus ou comme complément peut-être aux parents qui se tournent vers votre association et vers vous?
Alors concrètement, les ateliers vont pouvoir aider les parents déjà à déculpabiliser. On va accueillir le parent tel qu'il est, dans le non-jugement. C'est important que nous, animateurs, on soit là pour accueillir et on connaît ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe pour le parent. On l'a nous-mêmes vécu bien souvent. On en est là parce qu'on a eu ces déclics. C'est important. Ensuite, on va le soutenir et on va le valoriser dans son rôle de parent. Et puis, on va l'informer. Et on va lui faire prendre conscience, par exemple sur les émotions. Avant de s'occuper de l'enfant, on va faire prendre conscience dans son corps, à lui, ce qu'est une émotion. Alors, sur, par exemple, un...
Prenez un exemple. Alors, voilà. Prenez l'exemple, par exemple, on s'était dit, l'exemple de la colère. À propos de... Tout le monde fait face à des colères d'enfants, qui ne s'est pas promené avec un enfant dans un supermarché et ça s'est mal fini. La colère, exemple typique, qu'est-ce que vous dites sur ce sujet de la validation des émotions aux parents?
Alors, la colère, effectivement, ça va être de respirer. L'enfant vit une émotion, elle n'est pas la mienne. Alors je respire amplement, je me détache du regard des autres. Je me concentre sur l'enfant, sur ce qu'il se passe pour lui à ce moment-là. Je ne suis pas en train de regarder tout ce qui se passe autour de moi. Ensuite, je vais décrire à l'enfant ce qu'il se passe, ce que je vois. Je vois que tes sourcils sont froncés, je vois que tu es les bras croisés, la bouche fermée. Des fois, c'est aussi l'enfant se roule par terre. Donc là, c'est une autre étape.
Oui, là, ce n'est plus de la colère, c'est une crise de stress.
De stress.
Aussi, dans l'atelier que mène Christelle et dans Stopocrise, on entend cette différence entre la colère et le stress. Énormément de parents, comme on a très peu appris de choses sur les émotions, on a tendance à confondre la colère et le stress. Et en fait, dans un supermarché, c'est rarement de la colère, c'est plus du stress et ça ne s'accueille pas de la même manière.
Donc en tout cas, on accueille, on valide ses émotions et donc là, ça change tout, l'enfant va se calmer, c'est...
Non, c'est pas magique. C'est un travail pas à pas. Et effectivement, on va poser des mots sur des mots empathiques. Voilà. C'est l'empathie qui va
faire. Mais quand même, globalement, si ça marche quand même nettement mieux et ça permet aux enfants de se calmer nettement davantage que de le punir ou de le frapper.
Albert Roser Thomas, vous avez une intervention.
Donc, je voulais confirmer ce que venait de dire Madame Fillosa et je voulais intervenir un peu plus en amont. Le fait, dans les ateliers, lorsqu'on a travaillé l'écoute empathique, d'abord, on a formulé l'accueil de nos propres émotions. Et lorsqu'on a quelqu'un qui nomme l'émotion, justement, tu es en colère, alors que je suis en colère, je ressens un bien-être fort. Et c'est la même chose qu'on fait vers les enfants. Lorsqu'on arrive à nommer, justement, leur émotion, on apaise tout de suite les crises.
C'est-à-dire, déjà, ils se sentent rejoints, c'est ça que vous voulez dire?
Ils sentent que leur émotion est accueillie, ils sentent qu'on les accepte comme ils sont, et ils peuvent passer à autre chose.
Sandrine Astagnaud, parlez tous bien près des micros, s'il vous plaît. Allez-y.
Oui, moi, je compléterai quand même que toutes ces actions qu'on va pouvoir faire autour de l'enfant, ça passe par les bases, où c'est qu'on va se mettre à la hauteur de l'enfant. On va donc se mettre à sa portée, en fait. Et ce sont des gestes simples que l'on revoit, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas ou qu'on va découvrir lors de ces ateliers. Ce sont des outils simples, en fait, mais qui vont faire que l'enfant va se sentir écouté et compris, en fait. Et donc, voilà, le fait de regarder l'enfant, se mettre à sa portée, être à côté de lui, pas forcément face à lui, et qu'il n'y ait pas cet affrontement, mais au contraire, un accompagnement de son stress et qu'il peut vivre dans ce supermarché ou à un autre endroit.
Alors, deuxième point, j'ai noté, souligner ce qu'il y a de positif. Est-ce que vous pouvez nous introduire ce deuxième point cardinal, Isabelle Fillosa?
Oui, ça, c'est vraiment une direction qui est issue de la psychologie positive et qui montre que dans le cerveau, c'est toujours beaucoup plus efficace d'orienter vers le positif et de relever le positif. C'est naturel pour un humain de regarder le négatif. Ça nous a permis de nous sauver la vie quand on regardait qu'est-ce qui n'allait pas dans la savane et oh, il y a un tel petit truc qui dépasse, ça va pas, c'est dangereux. Donc c'était bien. Mais voilà, le problème c'est que notre système s'est emballé et que surtout en France, nous avons vraiment un peu tendance à pointer le négatif et à tout formuler en termes de négatif comme « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Donc, une première chose, au lieu de « ne fais pas ceci », par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à une girafe », hop, immédiatement, vous pensez à une girafe. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme le cerveau de l'enfant ne maîtrise pas bien la négation et ne peut pas arriver à inhiber forcément, eh bien, lorsque je donne comme ça un interdit, finalement, j'ai dirigé le cerveau de l'enfant vers ce que je ne désire pas. Donc, c'est là qu'il va probablement transgresser. D'autre part, quand on veut aider un enfant à changer son comportement, il vaut mieux, au lieu de lui dire tout ce qui ne fait pas bien, oh, regarde, là tu as encore laissé ton cartable par terre, là tu as fait ceci qui ne va pas, etc. Regardez de manière plus large ce qui se passe, focalisez notre attention sur un aspect positif. Ah, là tu as fait preuve de courage en osant t'affirmer face à tel et tel. On a dit quelque chose, on a fourni une ressource à l'enfant et du coup, ça va l'inciter à devenir de plus en plus courageux, de plus en plus concentré, de plus en plus, etc. Plus nous allons nourrir ces aspects positifs, moins les aspects négatifs ne vont pouvoir prendre le terrain. Quand on souligne sans arrêt les aspects négatifs, eh bien, c'est comme si on nourrissait des aspects négatifs.
Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple, même question Christelle Ansart, dans vos ateliers, quand on fait face par exemple à... Quand il s'agit de dire non à un enfant, y a-t-il une autre méthodologie, entre guillemets, que propose l'éducation positive, et si oui, laquelle ?
Je peux vous donner un exemple vécu. Alors, j'ai repensé au moment où, à Pâques, justement, ma fille de 5 ans voulait manger tous les œufs qu'elle avait ramassés. Donc elle voulait manger tous les œufs de son panier, et plutôt que de lui dire non, ça suffit, je lui ai dit: combien il y a d'œufs en chocolat dans ton panier? À l'époque, elle m'a dit: ah, il y en a au moins 100. Alors je lui ai dit: 100? Ah, et elle m'a dit: je vais les manger tous d'un coup. Et je lui ai répondu: mais si tu les manges tous les 100 d'un coup, tu vas être malade. Elle m'a répondu: mais moi j'ai faim. Ah, mais si tu as faim, je vais te donner quelque chose à manger de bon, on va aller voir au frigo.
Donc, voilà. Et alors que veut dire cet exemple? Veut dire qu'il faut essayer d'orienter l'attention vers autre chose, ou il faut essayer de voir quel est le besoin le plus profond qui est exprimé?
Tout à fait. Son besoin n'était pas de manger tous les chocolats, elle a bien exprimé ensuite qu'elle avait faim. Et donc là, on se focalise sur j'ai faim.
Alors, je vois le temps qui passe, je propose qu'on avance. Troisième point cardinal, choisir la non-violence. Est-ce que vous pouvez rapidement l'introduire aussi, Isabelle Fioza? Et puis après, on va demander pareil un exemple à Christelle Ansart.
Oui, nous sommes issus d'une culture violente. La plupart d'entre nous ont reçu de la violence de la part de leurs enfants et donc...
De leurs parents,
exact, merci. Et donc, de manière régulière, nous avons cette tendance à avoir des automatismes violents. Et donc, nous avons besoin de choisir la non-violence. C'est véritablement un choix. Et pour ça, on a besoin d'apprendre à respirer, à se calmer, à maîtriser nos impulsions.
Christelle Ansart, même chose. Quand vous arrivez, qu'il y a des parents qui arrivent, c'est le mot est fort, choisir la non-violence. Hein. On peut imaginer parfois que c'est comme un aveu de faiblesse, ou qu'on ne va pas savoir faire son job. Donc, comment est-ce que vous accompagnez les parents dans le choix de cette non-violence?
Alors, le premier atelier écrit par Isabelle Fioza, les ateliers de parents, c'est stop aux crises. Et c'est savoir gérer le stress. Souvent, les réactions de violence sont du stress. Et prendre, conscientiser que nous sommes dans un état de stress et qu'on va crier sur l'enfant, on est en train de crier sur l'enfant, on le tape, alors qu'on ne voulait pas, c'était pas notre intention. Là, les parents se retrouvent juste après, ils culpabilisent et bien souvent ils vont réattaquer en criant. Ils vont essayer de se déculpabiliser comme ils peuvent. Ah, tu m'as cherché. Ou celle-là, tu l'as bien mérité. Ce sont des réactions de stress. En prendre conscience dans les ateliers de parents permet effectivement pour le parent, à un moment donné, de quand il va sentir ce qu'il se passe en lui, qu'il est conscient de ce qu'il y a en lui, de pouvoir se dire non, ça c'était avant. Voilà, maintenant je veux faire autrement.
Apprendre à gérer ses émotions.
Son stress.
Dernier point cardinal, dire son amour. Ça paraît évident. Comment vous expliqueriez cela, Isabelle Fioza? C'est une lapalissade.
Oui, mais enfin, il faut le rappeler quand même parce que c'est pas été toujours simple. Hein. J'ai rencontré beaucoup de parents qui disent mais je n'ose pas dire ou je t'aime à mes enfants ou aujourd'hui c'est plus facile qu'avant, mais quand même. Nous avons à dire « je t'aime » à nos enfants et de manière variée « j'aime vivre avec toi », etc. Tout cela, ça remplit ce qu'on appelle le réservoir d'amour de l'enfant, qui est en réalité un réservoir de capacité de pouvoir de résister au stress et de réguler le stress. Parce que chaque fois que nous émettons comme cela de l'amour par un regard, par un sourire, par des mots tendres, nous émettons de l'amour, et bien l'enfant sécrète de l'ocytocine et ça lui permet de réguler mieux son stress. Ça lui permet de s'adapter dans la vie.
Vous avez une expression pour ça que j'ai lue, c'est-à-dire que l'amour n'est pas une récompense, c'est ça, mais c'est un carburant.
Exactement.
Ai-je bien lu ?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Alors, même chose, Christelle Ansart, on apprend aux parents à dire je t'aime à ses enfants et à s'obliger à manifester sa tendresse ou à oser manifester sa tendresse.
Tout à fait, on apprend aux parents que le temps qu'il passe avec son enfant à jouer est du temps constructif dans le lien, dans l'attachement, et que ces moments sont importants. Jouer avec son enfant, jouer en le regardant, jouer en l'admirant aussi, jouer en le valorisant, par exemple, lui proposer du temps d'échange avec chacun de ses enfants, petit à petit. Il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures et dire je vais passer tout un samedi pour attraper tout ce que j'ai pas pu faire avec lui. C'est au quotidien. Et puis il y a des parents, par exemple, qui sont séparés de leurs enfants. Eh bien, c'est un petit peu chaque jour avoir un appel à distance, parce que ce n'est pas parce qu'on est séparé qu'on ne pense pas à son enfant et qu'on ne peut pas échanger avec lui. C'est important que l'enfant se sente en lien avec son parent et qu'on puisse prendre le temps que l'enfant parle de ce qui est bon pour lui, ce qui s'est passé dans la journée. Ça, l'enfant se sent écouté.
Vous aviez une expression en préparant l'émission, pardon, j'arrête pas de parler des coulisses de l'émission, vous disiez il faut arroser de tendresse, c'est-à-dire tous les jours un petit peu, c'est ça ?
Comme les plantes. Si vous arrosez la plante, si vous n'arrosez pas une plante, elle va mourir. Si vous l'arrosez trop d'un coup, elle va mourir. Eh bien, c'est prendre soin de ses enfants comme on prend soin des plantes. Ce sont des petits bonsaïs, nos enfants. Ils ont besoin d'attention, de tendresse, et c'est petit à petit, pas à pas. Grandir à petits pas, et c'est faire grandir son amour à petits pas, jour après jour.
Bonsaï et pas cactus. Sandrine Astagnaud, vous vouliez intervenir ?
Oui, je voulais juste rajouter en fait que cet amour qui arrive tous les jours, c'est une sécurité pour l'enfant en fait. Ce carburant, nous comme on est à voiture, si on n'a pas fait le plein d'essence et on arrive sur notre réserve, on sait qu'on n'est pas en sécurité. Le moindre bouchon, on va arriver à la bourre parce que... Il y a les bouchons, mais aussi parce qu'on peut tomber en panne. L'enfant, s'il a ce carburant-là, pour lui, c'est une sécurité de pouvoir aller faire sa journée d'école, de pouvoir passer une bonne nuit si, en effet, il a passé un appel téléphonique à un des parents qui n'est pas présent. Je pense pour lui que c'est une sécurité.
Albert Rosaire-Thomas.
Et ce qui va rester à la fin, c'est l'amour. Et le regret qu'on pourrait avoir, c'est de ne pas avoir... de ne pas s'être concentré assez sur l'amour et plus sur quelle paire de chaussures et qui va choisir la paire de chaussures ce matin. Donc voilà un point important.
Voilà, en tout cas, ça peut introduire votre propos, puisqu'après on va vous donner la parole et vous faites écho par exemple aux crises qu'il pouvait y avoir chez vous, mais j'imagine que ça arrive dans beaucoup de familles, au moment du départ du matin. Vous nous expliquerez ça après. On va faire une deuxième pause musicale. Merci beaucoup à Isabelle Fioza qui va nous quitter. Je rappelle le titre de l'un de vos ouvrages, On ne se comprend plus, paru aux éditions Lattès.
Thank you. Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Coup de zoom sur l'éducation positive. Pour rappel, c'est le titre de l'émission Vivante Église ce matin. Et autour du plateau, Christelle Ansart, entre autres animatrice d'ateliers de parents et coach en parentalité, et Sandrine Astegno et Albert Roser Thomas qui ont suivi ces ateliers et qui vont maintenant vous nous donner un peu plus longuement leur témoignage. On va commencer avec vous, Albert Roser Thomas. Voilà, dans quelle situation étiez-vous et pourquoi avez-vous eu recours à l'association Parents Aujourd'hui, dont on redonnera les références à la fin, et vous êtes-vous tourné vers l'éducation positive?
J'avais un souci à la maison avec ma fille cadette, j'ai 3 enfants. Le matin et le soir, nous avions des crises. C'était volcanique, dur à gérer.
Elle avait quel âge?
Elle avait 3-4 ans.
Ça veut dire quoi des crises en fait?
Des cris. On ne pouvait pas avancer dans la préparation le matin, par exemple, ou le soir, dès que je la retrouvais. Elle voulait à un moment, par exemple, attacher sa ceinture toute seule, mais ça partait un peu de travers et ça finissait en impossibilité d'aller chercher son frère à l'autre école. Voilà, au quotidien, c'était compliqué à gérer. J'étais sensibilisé aux besoins parce que je m'étais formé à la communication non violente. Donc je voyais qu'il y avait un besoin, mais je ne savais pas y répondre. Et à ce moment-là...
Un besoin de son côté ?
Oui.
D'accord.
Pour moi, il y avait quelque chose qui se jouait que je ne comprenais pas, que je ne maîtrisais pas. Et j'avais besoin de quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai vu un atelier qui s'appelait alors Fureur, Pleurs et Tremblements. Donc le titre correspondait
très bien. Fureur, Pleurs et Tremblements. On croirait presque un scénario hollywoodien. Là.
C'est presque du Amélie Nothomb.
Je dirais que c'est du Hollywood, parfois, dans certaines familles. Hein.
Et il s'appelle maintenant Accueillir et accompagner les émotions de l'enfant. Qui dit beaucoup plus que c'est. Et je suis allé à cet atelier et là, j'ai découvert qu'il y avait un vrai travail sur les émotions, qu'il y avait des personnes qui travaillaient sur quelles étaient les émotions, ce que c'était qu'une émotion, à quoi ça servait dans la nature, comment l'accueillir, comment la déchiffrer en observant l'autre. Et ça m'a fortement impacté. Ça m'a impacté d'abord parce que je voyais l'utilité avec mes enfants et ma fille avec qui, à ce moment-là, j'avais plus de mal. Dans le avant, on s'était quand même retrouvé dans une situation où elle était passée de me dire régulièrement « je t'aime » à avoir arrêté de le dire. Et moi-même, je prenais moins de plaisir dans la relation. C'était plus dur.
Alors, si c'est pas indiscret, qu'est-ce que vous avez compris et quel est ce besoin que vous avez réussi à déceler ou comment vous avez réussi à le faire apparaître? Enfin, en gros, comment ça s'est résolu?
Alors, le travail sur les émotions va de pair avec un travail sur l'accueil empathique de l'émotion. Et ce que j'ai appris, c'est que les crises du soir, par exemple, venaient du stress qu'elle pouvait avoir accumulé dans la journée, ce qu'on appelle une collection de timbres. Elle avait collé des petits timbres à chaque colère non exprimée dans la journée. Et quand elle me retrouvait, moi, figure d'attachement, ça explosait. Et alors, j'étais classiquement, j'avais grandi avec l'idée qu'il fallait en imposer à l'enfant. Donc, quelque part, je cherchais à gérer ça par un rapport de force, ce qui ne me satisfaisait pas totalement et qui ne marchait pas. Donc, ce que j'ai appris, c'est à chercher à nommer ce qui se passait pour ma fille à ce moment-là. Donc, tu es en colère, hein, tu es fatigué, ainsi de suite. Et très rapidement après le stage, ça a apporté un apaisement.
C'est-à-dire le seul fait que vous ayez compris que ce qu'il se jouait pour elle et votre changement d'attitude a, entre guillemets, découpillé, enfin pas en l'occurrence pas découpillé, mais a apaisé la situation.
Oui, ça, le fait d'accueillir et de nommer son émotion, ça a apaisé tout de suite cette colère qui... Si je l'avais géré par l'affrontement comme avant ou par le rapport de force, ça aurait explosé.
Ce qu'on comprend aussi dans votre rapide témoignage, il y aurait probablement d'autres choses à dire, entre autres que vous avez recommencé à vous dire « je t'aime » de part et d'autre, en tout cas votre fille, c'est ce que vous me disiez. Vous avez découvert l'importance, et c'est ce que vous venez de souligner, de l'apprentissage de la gestion des émotions. Est-ce à dire que, c'est parfois l'occasion pour les parents de se rendre compte qu'ils ont un petit travail à faire sur eux-mêmes, qu'il faut apprendre à relire son histoire personnelle ou à ne pas la faire porter à ses enfants?
Oui. Alors, pendant ce stage, il y avait cette ouverture sur les émotions et je sentais aussi beaucoup de tension chez moi. Et donc, ça m'a amené à interroger ça. Alors, déjà, je me suis aperçu au moment de ce stage qu'une part des crises venait de moi. Et une part, c'était comment je me sentais et comment je le répercutais après dans notre vie de famille.
En même temps, si vous arrivez d'une journée de travail très difficile, très compliquée, que en gros le programme dès que vous avez franchi la porte, c'est d'encaisser la crise de votre fille, il faut gérer quand même.
Il faut gérer, mais ce n'est pas à ma fille de subir ce que moi j'ai pu engranger dans la journée. Donc j'ai fait un stage de mon côté dans l'école Fiosa qui s'appelle Grammaire des émotions. Et donc l'idée, pareil, c'est je m'apporte de l'empathie, donc je cherche à comprendre mes émotions, à les nommer, ça m'aide à m'aimer plus moi-même. Et à être plus détendu. Et puis aussi, dans ce qui est actif, cette tension dont je vous parle, j'ai appris à l'évacuer en bougeant plus. J'ai besoin d'activité. En stage, je bouge pas mal dans la salle. Ça me fait du bien. Je suis apaisé. Et mes relations avec ma famille sont apaisées.
Voilà, le père de famille qui fait quelques tours de pâté de maison avant de rentrer, de franchir le seuil de la porte. Sandrine Astegno, la parole est à vous. Même question, dans quelle situation étiez-vous et pourquoi est-ce que vous avez toqué la porte de l'éducation positive?
Alors, tout au début, déjà, j'étais déjà vigilante, même avant d'avoir des enfants. J'étais intéressée déjà par cette bienveillance. Par cette écoute du fait aussi de mon milieu professionnel où je travaillais déjà en pédiatrie. Et je voyais en fait une petite vie de famille tranquille, sans cris. C'était plutôt agréable en fait. Pour moi, dans ma tête, je l'avais imaginé comme ça. Et en fait, au quotidien, je me suis aperçue que c'était pas du tout le cas, que j'avais des difficultés à gérer les crises et que en fait, ce qui se passait, c'était surtout moi qui criais dans la maison, en fait. Et donc, quand je dis crier, c'était même des fois des hurlements dans la maison, où c'est que mes enfants pouvaient se mettre les mains sur les oreilles, à se demander qu'est-ce qui se passait dans cette maison. Et
c'était quoi l'atelier déjà? Fureur?
Pleurs et tremblements.
Ah ouais,
Vous avez fait
l'atelier fureur, cri et tremblements?
Pas du tout, je n'ai pas fait le même. Je n'ai pas fait le même stage parce qu'on a la chance de pouvoir avoir accès à différents stages. Mais moi, j'ai fait le stage parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Je l'ai fait moi-même et mon conjoint l'a fait également, le même stage le mois suivant.
Redites le titre de l'atelier.
Parler pour que les enfants écoutent. Écouter pour que les enfants parlent. Et donc, le titre en dit beaucoup. Et donc, c'est bien une notion d'échange, en fait, et d'accompagnement. Et c'est pas le parent qui a, pour moi, tout pouvoir. Et c'est ce que je faisais, moi, à la maison, en fait. L'enfant ne m'écoutait pas. J'étais la pro du coin. Comme je disais, moi, dans ma maison ou partout où on allait, je disais « Attention à ton comportement. Si tu m'écoutes pas, je te mets au coin. » Et ça, c'était quelque chose que je mettais en pratique régulièrement. Et ces cris étaient vraiment insupportables pour tout le monde et c'était pas ce que j'avais envie en fait comme vie. Et ce qui a fait que j'ai eu la connaissance de cette association là et qui a fait que je me suis redirigée vers Christelle et son équipe. Et à travers ce stage, ça m'a permis de...
C'est la question que j'allais vous poser, quel est le cœur de ce que vous avez découvert? Comment vous le nommeriez?
En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, avec l'enfant, on n'était pas dominant, mais qu'on faisait ensemble et qu'on accompagnait. C'est vraiment des mots pour moi qui sont importants. C'est pas le parent qui est tout pouvoir. Oui, on a cette notion de responsabilité et on a aussi cette notion, c'est qu'on doit rendre nos enfants responsables aussi de ce qu'ils font. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens et tout en sachant quand même quelque chose très important pour moi, que j'ai découvert à travers des livres, à travers ces stages, c'est que le cerveau de l'enfant se développe quand même jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc on devient adulte assez tard. Donc du coup, ces enfants n'ont pas toutes leurs capacités. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on doit se rappeler en tant qu'adulte régulièrement. D'où tout ce travail sur le stress de nous-mêmes, sur les émotions, nos propres émotions et ceux de l'enfant, pour pouvoir les accompagner au mieux.
Alors, qu'est-ce que ça a changé précisément ? C'est-à-dire, comment vous avez réussi à moins crier ?
Alors, il y a moins de cris. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout.
Est-ce que vous pouvez être plus précis ? C'est-à-dire, oui. ce qui vous faisait monter dans les tours, comme on dit, et puis là où vous avez réussi à gérer autrement, et du coup, votre maison a perdu tous ses coins.
Alors, par exemple, le fait qu'elles ne veuillent pas ranger du tout leur chambre, où c'était décrit parce qu'elles ne rangeaient pas leur chambre, c'était très compliqué. On s'est posé autour d'une table et nous avons fait ensemble les règles, en fait. Les règles de la maison, les règles pour ranger cette chambre. Quelles solutions pouvons-nous trouver ensemble, en fait ? Et donc, on a pris un papier. Donc, vu qu'elles sont petites, elles n'avaient pas encore cette notion pour écrire. Donc, c'est moi qui notais, mais on notait toutes les idées, tout ce qui venait. Et là, le fait qu'elle note vraiment... je note toutes ses idées.
Elles avaient quel âge ?
Donc, elles avaient 2 et 4 ans. 5 ans.
À 2 ans, elles étaient capables d'exprimer des idées sur...
Ça pouvait être n'importe quoi. Bon, vraiment, ça pouvait être... Elles pouvaient me dire ce qu'elles voulaient. C'était... moi, je veux que les poupées soient dans mon lit, par exemple. Elles seront rangées. Mais l'important, c'était qu'elles puissent s'exprimer, en fait. Et donc, on notait tout. Et à la fin, on avait le droit d'éliminer chacune. Par exemple, il y avait 10 points qui avaient été notés. On avait le droit de dire, moi, ça, vraiment, pas du tout. Ça m'est insupportable, je ne pourrais pas. Et donc, chacun, on avait le droit de barrer. Mais on n'avait pas le droit de tout barrer. Et donc, on a gardé. Donc, ça veut dire que moi aussi, j'ai fait des compromis. Moi aussi, j'ai dû faire un lâcher-prise dans mon tempérament de maman qui voulait être une maman parfaite, en fait. Et en fait, la maman parfaite, non, elle n'existe pas. Moi, ce n'est pas possible.
Et donc, la chambre est rangée ou elles ont accepté de la ranger davantage ?
Oui, tout à fait. Les chambres sont rangées régulièrement. Donc, j'ai lâché prise aussi que je ne leur demande plus tous les soirs de ranger leur chambre. Mais elles savent que, par exemple, tous les dimanches, je demande à ce que la chambre soit rangée. C'est quelque chose qu'on a posé ensemble. Et donc, on va le faire plutôt par mission, en fonction de leur âge. Maintenant, ma grande de 7 ans, par exemple, j'ai plus besoin de lui donner des missions. Elle me dit, non, maman, c'est bon, moi, j'ai plus besoin de tes missions. La petite, oui. Donc, ça va être, allez, la mission, ranger les livres. Mission, ranger les Playmobil. Et ça fonctionne très bien. Et elles vont le faire seules ou avec mon aide. Il y a des moments où elles vont dire, oh, j'aimerais bien que tu m'aides. Ben oui, ça peut être un moment de partage aussi et un moment d'amour, du coup, et d'échange, cette notion de partage et de ranger ensemble la chambre.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, nous dire en fait la manière dont ça peut aussi changer le comportement de vos enfants à l'école ? Voilà, citez-nous peut-être l'exemple que vous m'aviez cité tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Le fait de pouvoir échanger avec ma fille en fait et de l'aider à comprendre ses émotions. Tout à l'heure, vous disiez, vous avez dit. Comment les enfants dans la société d'aujourd'hui ne vont pas se sentir rejetés, ou etc. Au contraire, le fait de leur faire comprendre leurs émotions, qu'ils arrivent à analyser eux-mêmes maintenant. Moi, j'ai ma fille, par exemple, qui a eu des difficultés en classe avec un de ses camarades, un camarade qui a été violent en classe, qui a été submergé par ses émotions, par des cris, ou un enfant qui a jeté les chaises... dans la classe, etc. Ma fille, en rentrant le soir, elle-même m'a dit « Oulala, ce petit garçon, aujourd'hui, il a été envahi, il était rouge de colère, il n'a pas réussi à gérer, le pauvre, on n'a rien compris, on ne l'a pas aidé, il était tout seul. Maîtresse, elle a mis de côté... Voilà. Et en fait, ma fille, elle m'a dit le soir, « Maman, est-ce que je peux apporter mon livre des émotions pour qu'on puisse en parler ensemble en classe ?» Et donc, je l'ai évidemment autorisé d'apporter ce livre et d'en discuter avec la maîtresse. Et il y a eu ce temps d'échange le lendemain où c'est que l'enfant, en fait, a pu être écouté et compris. Et ma fille lui a dit, « Voilà ce qui t'est arrivé hier. Tu étais en colère. »
Eh ben, merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de l'éducation positive. 2-3 informations pour finir cette émission. Le titre donc du livre cité d'Isabelle Fioza, On ne se comprend plus, paru aux éditions Lattès. une association Parents Aujourd'hui où intervient, enfin qu'a fondé Christelle Ansart, Parents Aujourd'hui, un site internet peut-être, www.parentsaujourd'hui, parents au pluriel, .org. Et vous vouliez pour finir très rapidement donner le titre d'une autre association, Albert Roser Thomas.
L'association La Clairière à Villefranche-de-Lauragais que nous avons cofondée pour partager ses connaissances.
Voilà, merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin pour parler donc éducation positive. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou en podcast ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.